Salut les paramodernes et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain.
Oh mon Dieu, excusez-moi, je suis comme crispée, il fait tellement froid dans mon bureau. La porte était fermée parce que je veux juste faire du déni de mon méga bordel. Mais il fait comme 16 dans la pièce et j'ai froid et c'est la seule place où est-ce que je peux enregistrer mon podcast sans qu'il y ait trop de bruit de la maison résiduelle. Bref, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet là, que j'avais abordé il y a quelques semaines dans l'épisode 127. J'avais fait un épisode sur les effets du stress sur nos enfants. Donc je parlais que parfois, on en faisait un petit peu trop pour protéger notre enfant, trop pour l'aider, trop pour lui éviter des situations désagréables. Puis qu'en faisant ça, ben sans le vouloir, sans le savoir, on était en train un peu de nuire au développement de sa résilience, de sa motivation, de ses habiletés sociales, de sa capacité à gérer des petits et des moyens stress, ou encore d'apprendre à naviguer dans toutes les émotions, même celles qui sont les plus désagréables, et que, donc, oui, ça affectait l'anxiété de performance et le stress chez les enfants. Là, ça manque full de nuances ce que je suis en train de dire parce que, évidemment, j'en ai parlé pendant 35 minutes dans l'épisode 127, alors je t'invite fortement à aller écouter cet épisode-là et à ensuite revenir ici pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire et pour écouter la suite logique. Donc, c'est quoi la suite logique? Bonne question! La suite logique pour moi, ben ce serait de savoir comment on peut faire pour justement éviter d'en faire trop. Comment on peut s'aider à gérer d'abord notre propre anxiété? Comment on peut mieux... comment on peut mieux réguler nos inquiétudes? Et comment on peut être un petit peu moins peut-être en hypervigilance? Donc, comment on peut en faire moins? Parce que des fois, c'est bien beau de se dire « Ok, là, faut que j'arrête de surprotéger. Je veux pas être un parent hélicoptère qui est toujours là, tu sais, pour surveiller, sauver mon enfant. Je veux lâcher prise, je veux lui faire confiance. Je veux le laisser un petit peu plus expérimenter, se tromper, mais j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. J'ai besoin de comme de faire ça pour me sentir bien, pour me sentir utile, pour déculpabiliser, pour me sentir plus en contrôle. » Puis, et moi, la première, là, je travaille très, très fort là-dessus depuis des années, mais mes enfants vieillissent un petit peu plus, ils vont à l'école, donc il y a un petit peu plus, je dois vraiment travailler sur mon lâcher prise et sur mon hypervigilance. Donc, des fois, on le sait, mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas par où commencer. Donc, c'est un peu de tout ça qu'on parle aujourd'hui. Là, je vais aller chercher une doudou parce que ça n'a pas de sens et je reviens. Bon, OK. Alors, je vais réussir à me réchauffer un peu. Et puis, je suis contente d'aborder encore ce sujet-là parce que évidemment, il y avait plusieurs parents qui me l'avaient demandé suite à l'épisode 127. Donc, je suis contente pas parce que vous êtes un peu ou beaucoup anxieux, mais parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je suis en train de travailler sur une formation sur l'anxiété, justement. Donc, ça va être en deux temps, si on veut. Donc, il va y avoir une mini-formation sur l'anxiété chez les enfants de 2 ans environ là, à 10 ans pour vous aider à les accompagner puis à utiliser l'anxiété comme une force plutôt que comme une béquille. Puis je pense que ça va être vraiment super intéressant. Et il va y avoir aussi, parce que je disais en deux temps, là, dans le fond, la deuxième partie, si on veut, de la formation. Ça va être une formation pour les parents, donc pour le stress parental, pour apprendre à gérer nos grosses émotions, gérer notre impatience, mieux se comprendre, surtout parce que des fois, c'est ça, des fois, c'est qu'on a de la difficulté à comprendre ce qu'on ressent, ce qu'on vit, puis tant qu'on ne met pas le doigt là-dessus, tant qu'on n'a pas des déclics par rapport à ça, c'est très, très, très difficile d'avancer, d'évoluer ou d'utiliser des outils pour vraiment s'aider, ce qui fait que des fois, on peut tomber dans des comportements de rage ou de colère, puis on comprend pas de où ça vient et où comment contrôler ça. Donc, ça va être 2 mini-formations qu'on peut acheter, évidemment, soit séparées ou soit ensemble. Je vous en reparlerai bientôt. Donc, restez à l'affût dans les prochaines semaines pour pouvoir avoir une annonce un petit peu plus claire là, quant à la date de la sortie ou, en fait, de la pré-vente. Je sais que c'est souvent ce qui vous intéresse et je comprends. Donc, j'en ai parlé un peu au début de l'épisode 127, justement, je refais référence à cet épisode-là encore, que c'est tout à fait normal hein, d'être un peu plus en hyper-vigilance une fois qu'on devient parent. Donc le fait d'être plus aux aguets des différents dangers, d'être plus en mode protection, d'être plus inquiet aussi parce qu'on ne veut pas qu'il arrive rien de grave à nos enfants. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est normal même que je dirais que c'est sain. C'est sain de ressentir de la peur, c'est une émotion qui est valide, c'est une émotion qui nous envoie un message en fait hyper important, un message qui dit qu'il y a quelque chose qui nous rend inconfortable et pour laquelle il faut être attentif. Et c'est aussi l'utilité de toutes les émotions. Les émotions servent à nous envoyer des messages pour qu'on puisse être attentif à une situation ou à une donnée pour pouvoir agir répondre à cette émotion-là ou répondre à ce besoin-là derrière l'émotion. Donc, le problème avec la peur, c'est que comme chez les enfants, elle peut parfois être irrationnelle, même si on est adulte. Et là, attention, irrationnelle ne veut pas dire qu'elle n'est pas valide, mais bien qu'il y a peut-être un danger, mais peut-être qu'il y a un danger qui n'est pas réel, qu'il n'y a pas un réel danger, qu'il n'y a pas vraiment une menace qui existe. Et que donc, c'est peut-être pas le moment de prendre une décision importante quand on est devant une peur irrationnelle. Là, je vais donner un exemple, peut-être ça va être un petit peu plus clair. Mettons ton enfant a un an, donc il serait temps qu'il commence la nourriture solide, hein, en morceaux, là. Il aurait pu commencer bien avant, mais bon, toi, t'avais décidé d'attendre le plus longtemps possible parce que t'as tellement peur qu'il s'étouffe, fait que là, bon, t'as attendu jusqu'à un an, mais là, hey, un an, faudrait qu'il commence à diversifier son alimentation, à plus juste manger des purées. Mais là, tu fais une décision basée sur ta peur parce que tu as encore trop peur à, au-delà de ces un an qui mange de la nourriture en morceaux. Donc, tu lui donnes des choses qui ressemblent un petit peu plus à une diète de CHSLD. Fait que juste des choses molles qui s'avalent sans dentier. Bon, je fais un petit peu des blagues, là. Je sais que la nourriture en CHSLD est molle parce que, bon, plein de bonnes raisons, hein, parce qu'il y a des dangers réels, que plusieurs usagers ont des grandes difficultés à mastiquer, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes âgées en perte d'autonomie ou en dégénérescence qui s'étouffent juste avec leur salive. Donc, bon, c'est un peu comme si toi, devant la peur que ton enfant s'étouffe, ben, tu prends la décision de lui donner que du mou à manger pendant encore plusieurs années. Donc là, ce serait de faire une décision basée sur ta peur et non pas sur les besoins réels de ton enfant. Les personnes âgées en CHSLD ont peut-être besoin de manger un petit peu plus mou, mais ton enfant qui a un an peut très bien manger des morceaux. On s'entend, là, peut-être pas des saucisses, des carottes puis des morceaux de pommes dures, mais il peut manger plein de choses, plein de morceaux qui sont hyper adaptés. Il n'y a pas besoin de manger encore une fois des purées. Mais toi, tu fais la décision de lui donner encore des purées basées sur ta peur pour te sentir assuré parce que tu as tellement une crainte qui s'étouffe. Ça peut être de ne pas laisser ton enfant grimper dans une glissade alors qu'il n'y a aucun autre enfant dans le module, là, parce que tu as peur que, je sais pas, là, que ton enfant bascule sur le côté, même si tu es là puis tu peux le protéger. Ça peut être de refuser qu'il participe à la préparation des repas parce que tu as peur qu'il se blesse. Puis aussi parce que tu es inconfortable avec le fait de peut-être perdre le contrôle puis que ça soit pas parfaitement à ton goût. Donc ça aussi, c'est une forme de stress parental ou d'hyper-vigilance. Et j'aurais tellement d'exemples à te donner justement dans la formation pour que tu fasses, tu sais, que tu réalises comme « Ah, oh, tabarouette, ok, c'est ça que je ressens, les symptômes fit, puis je me comprends mieux, ce que je ressens, c'est du stress, et maintenant, voici ce que je peux faire concrètement au quotidien pour diminuer ce stress-là ou pour m'aider à mieux comprendre mes émotions ou à mieux réagir. » Ça peut être « j'ai tellement peur d'échouer » ou « j'ai tellement peur que mon enfant échoue puis que le résultat soit pas parfait, que je vais éviter » tout type d'activité avec mon enfant qui pourrait menacer cette quiétude-là. Ça pourrait être d'obliger un enfant, je sais pas moi, de 7-8 ans à porter des flotteurs en tout le temps, parce que t'as peur qu'il se noie, que t'as de la difficulté à faire confiance à ce niveau-là. Donc tout ça, c'est des choses, des décisions qu'on fait basées sur nos insécurités, sur nos peurs irrationnelles et qui posent un réel problème sur le développement de nos enfants et sur notre bien-être aussi. Hey, c'est pas le fun, là, être constamment inquiet pour nos enfants. Puis pour l'enfant, ben ça lui met énormément de pression aussi. Et ça crée des peurs apprises. On peut facilement transmettre à nos enfants soit une grande peur d'échouer, de pas réussir, de pas tout faire parfaitement, de pas être à la hauteur. Et donc, une grande anxiété de performance assez tôt dans la petite enfance, ou alors notre enfant peut se méfier de tout, éviter toute situation nouvelle, de faire full anxiété pour des situations qui, oui, sont anxiogènes, mais qu'on parle d'une anxiété normale, d'une nervosité, une fébrilité devant, par exemple, un premier jour d'école ou une première semaine à l'école ou pour aller à la fête d'un ami, mais faut pas que ça soit on parle pas d'une anxiété paralysante qui fait que ça provoque un mutisme sélectif, que là, l'enfant peut plus parler ou que l'enfant est plus capable de fonctionner, pas capable de se faire des amis, pas capable de trouver des solutions à des problèmes ou à des conflits. Mais donc, pour nuancer ce que je viens de dire, ressentir de l'anxiété, c'est absolument normal et c'est sain. Donc, faut pas penser non plus que l'anxiété, c'est le diable. Non, l'anxiété, c'est normal et c'est sain. Quand c'est transposé en énergie positive, mettons, je suis nerveuse d'aller à mon entretien d'embauche, ça, c'est une nervosité ou une anxiété qui est normale, mais qui va me donner de l'énergie de me présenter à mon meilleur, de bien vendre ma salade ou de bien performer. Ou des fois, pas. Tu sais, des fois, cette anxiété-là peut un peu devenir une béquille. Mais alors là, on parle d'une anxiété qui est un problème. L'anxiété est un problème quand elle devient un problème, quand elle devient une béquille, quand elle nous empêche de bien fonctionner ou quand elle vient altérer nos pensées. Tu sais, les fameux « et si ». Hein? Et si, pendant la sortie, les éducatrices oubliaient mon enfant dans la toilette, puis que là, mon enfant serait perdu tout seul au zoo, puis que là, il finirait dans la cage des singes, puis qu'il devienne un enfant sauvage? OK, c'est un peu exagéré, mais ça reste que, mettons, et si pendant la sortie, les éducatrices oubliaient mon enfant dans la toilette? T'sais, ça reste des peurs irrationnelles, exagérées, de la difficulté à faire confiance. Mais ça, c'est de l'anxiété qui devient problématique. Et si, à l'école, on riait de mon enfant parce que je lui ai mis du vernis à ongles en fin de semaine parce qu'il m'a demandé de mettre du vernis à ongles, puis là, j'ai accepté, puis là... Et si à l'école on riait de lui parce que j'ai accepté de lui mettre du vernis à ongles, parce qu'il veut mettre du vernis à ongles, mais là d'un coup qu'il fait rire de lui à l'école, puis que là il devient la cible d'intimidation, puis que là il se fait pas d'amis, puis que là toute son primaire c'est horrible, ben non, là, je vais trouver une raison pour éviter de lui mettre du vernis à ongles, je vais dire qu'on l'a perdu, qu'il marche plus, bon... Et si le professeur de gymnastique, c'est un pédophile puis qui abuse ma fille de 4 ans, ah non, je vais pas l'inscrire à des cours si je peux pas être là. T'sais? C'est normal d'avoir des « et si ». L'enfant aussi va avoir des « et si ». C'est problématique si on s'arrête à ces « et si-là » puis que les « et si » nous empêchent de prendre des risques, ils nous empêchent d'essayer des choses. Quand elle empêche la personne de fonctionner, quand ça affecte certaines décisions plus irrationnelles basées sur les dangers qui n'en sont pas vraiment, ça devient effectivement un problème. Et nous, comme parents, quand on ressent ces inquiétudes-là, ce grand stress-là, cette hyper-vigilance-là, ben c'est normal aussi, mais ça devient un problème quand c'est rendu un problème pour moi et quand c'est rendu un problème et quand ça affecte aussi... mon enfant. Donc, ça peut affecter le développement de l'autonomie de mon enfant, le fait d'être exposé à des situations nouvelles, le fait de développer des habiletés sociales par la pratique. Donc, si mon enfant manque de pratique et manque ces occasions-là de développer son autonomie, ça peut être une grande nuisance. Ça peut affecter aussi le développement de l'intelligence émotionnelle de mon enfant parce qu'il y a de la difficulté à naviguer dans toutes les émotions parce qu'on l'a toujours protégé de ces situations-là. On a évité ou on l'a sauvé de situations qui allaient lui faire vivre de la frustration en achetant la paix, par exemple, ou en voulant le sauver très rapidement quand il y a de la peine, quand il était bébé, en lui mettant immédiatement une suce dans la bouche, en ouvrant la télévision. Donc, on a peur de perdre le contrôle, on a peur de ces grosses émotions-là, on se sent stressé, il y a une menace, notre cerveau, il est menacé, et ça se passe de façon totalement inconsciente, et donc là, on agit un peu en comme « vite, soit je fuis, ou soit je combat ». Donc, fuir peut être, évidemment, d'allumer la télé et de mettre la suce, puis de combattre peut être de se fâcher après son enfant, puis de le mettre en punition, ou d'un peu... lui faire peur, d'utiliser la menace ou le chantage quand il y a des grosses émotions pour qu'il comprenne que mon parent n'est pas confortable avec ça, donc je suis aussi bien de ne pas faire de crise. Ça peut être une nuisance aussi, l'anxiété ou l'hypervigilance ou le stress parental, quand ça affecte les besoins. Les enfants, ils ont un grand besoin d'autonomie, un grand besoin de faire les choses seuls, ils ont un besoin d'appartenance aussi, puis de vivre leurs propres expériences au sein d'un groupe. Donc si notre anxiété, notre hypervigilance fait en sorte qu'on fait des décisions qui empêchent nos enfants d'être autonomes, de vivre des choses, des expériences avec leurs amis, ça peut être une nuisance aussi. Quand ça affecte le développement de la personnalité ou les intérêts de notre enfant, quand par exemple notre enfant il a un fort intérêt pour, je sais pas moi, le karaté ou le ski, puis qu'on est comme non, c'est vraiment trop dangereux, je suis pas confortable de l'inscrire à un cours de ski, ou à, comme l'exemple que j'ai nommé tantôt par rapport à la gymnastique, puis d'un coup que le coach, d'un coup que la personne qui s'occupe de mon enfant, c'est une personne mal intentionnée, tu sais, donc là on va éviter notre enfant de le laisser se développer selon ses intérêts. Ça peut être une problématique aussi, ou quand ça affecte la prise de risque, puis que l'enfant devient très réticent à prendre des petits risques adaptés, parce que, exemple, aussitôt qu'il monte dans une échelle aux pommes, on est « Ah, non, c'est trop dangereux », ou « Ah, non, tu peux pas monter dans la glissade, c'est trop dangereux », ou « Ah, non, ce module-là, il est un petit peu trop gros pour toi, attention, c'est dangereux, tu pourrais mourir, tu pourrais te blesser », quand on devient nous-mêmes dans cette hypervigilance-là et dans ce stress-là, bien, on est en train de transmettre ces peurs-là à nos enfants, donc ça devient aussi un problème. Parlant de la prise de risque sécuritaire, la prise de risque sécuritaire, elle est nécessaire pour le développement émotionnel d'un enfant. Et je vais vous expliquer pourquoi le cerveau des enfants doit pouvoir se pratiquer à gérer des petits stress pour qu'ils soient en mesure d'en gérer des plus gros durant l'âge scolaire ou à l'adolescence. Donc le cerveau, là, il faut qu'il reçoive ses petites doses de cortisol ici et là pour, premièrement, qu'il s'habitue à recevoir cette hormone-là, qu'il sache, le cerveau, quoi faire pour se réguler, pour s'apaiser, pour être confortable et avancer malgré la nervosité. Parce que si on évite ça à notre enfant, tout risque, en fait, ou toutes les situations que j'ai nommées juste un petit peu plus tôt, bien, c'est là qu'on risque de développer, que notre enfant plutôt développe un trouble d'anxiété, et pas plus tard que dans l'enfance, à l'âge scolaire. Ça peut arriver très vite, l'anxiété, même avant l'âge préscolaire. Donc, les enfants doivent expérimenter, doivent pouvoir apprendre à gérer et réguler par eux-mêmes ces petites doses de cortisol-là. Et pour ça, ben, il faut leur faire confiance. Il faut apprendre à lâcher prise dans certaines situations, même si c'est très, très, très difficile, je le sais. La résilience, les amis, là, ça se développe par l'enfant lui-même, par ses expériences qui vont, oui, parfois, voire souvent, être inconfortable ou même désagréable, tout comme nous, on a vécu des expériences qui étaient inconfortables ou désagréables, mais qui nous ont fait grandir, qui nous ont permis d'apprendre et qui nous ont permis aujourd'hui d'être en mesure de fonctionner en se faisant confiance et en trouvant des solutions. On pourra jamais protéger nos enfants de tout, hein, parce qu'on sera pas toujours à côté d'eux, puis on veut pas toujours être à côté d'eux à leur donner la main. Des fois, ils vont aller à l'école, ils vont rencontrer des amis, ils vont vivre des expériences, mais au moins, on peut leur donner des outils pour qu'ils puissent expérimenter sans trop de difficultés, en étant capables aussi de se relever facilement, donc de développer leur résilience, ou de trouver des solutions à leurs problématiques. Alors, on veut que les expériences soient un défi, mais pas non plus au point d'être traumatisantes ou de les submerger au point où ils se disent « Ah, ça, c'était une étape énorme, c'est tellement horrible, moi, je veux plus jamais prendre de risques de toute ma vie. » Non, parce que si on va dans des expériences qui sont comme ça, qui sont pas adaptées, c'est aussi, tout aussi contre-productif que d'empêcher toute situation de survenir. Alors, on veut présenter des expériences qui sont évidemment adaptées. Et chaque enfant est différent, je le dirai jamais assez. Il y en a qui vont arriver à leur premier cours de danse ou de soccer puis qui vont super bien s'intégrer. Puis il y a des activités ou des expériences qui vont parfois être plus intimidantes que d'autres. Et ça, c'est normal. Alors, il faut faire confiance à nos enfants. mais en évitant de les retirer trop vite d'une situation. Exemple, si un enfant ne veut pas participer au cours de groupe, ben on pourrait très bien le laisser se pratiquer un peu en retrait du groupe, même à la limite avec toi, mais de rester sur le terrain de jeu et petit à petit, un cours à la fois, d'encourager notre enfant à y aller, puis de suivre un petit peu son rythme. Puis vous allez voir qu'après 4-5 semaines, il risque de s'intégrer aux parties, par exemple, si c'est soccer, il risque de s'intégrer à toute la partie ludique, de faire les jeux, de participer aux jeux, puis d'y prendre plaisir. Mais oups, peut-être de se retirer quand c'est rendu la partie un petit peu plus compétitive, là, où est-ce qu'il y a une petite partie de soccer amicale qui se joue. Mais peut-être qu'au bout de la 10e semaine, ton enfant va être capable de faire tout le cours au complet, puis que là, il va être super fier, il va avoir beaucoup pris confiance en lui, va avoir une plus belle estime, puis toi aussi, tu vas être fier de lui. Mais si, à l'inverse, dès qu'on va là, puis qu'on sent que notre enfant il y a une petite réticence, puis que il est un petit peu inquiet, il est un petit peu anxieux, ce qui est tout à fait normal. Si notre réaction, c'est d'aussitôt dire « Ok, ben on s'en va, c'est correct, mon amour, on va te désinscrire, on le fera pas », puis qu'on se retire dès les premiers 5 minutes... plutôt de persévérer, ben c'est sûr que notre enfant, ce qu'il va apprendre aussi, c'est « Ok, aussitôt que je suis inconfortable, je dois et je peux me retirer immédiatement et éviter ce genre d'activité à l'avenir parce que je suis pas capable. » Donc, en y allant plutôt avec un petit pas à la fois, en respectant le rythme de notre enfant, mais en trouvant des solutions qui sont un petit peu entre les deux, si on veut, bien, au fil du temps, à force de s'exercer, à rester dans des situations qui sont un petit peu plus inconfortables, bien, l'enfant va acquérir, au contraire, la capacité de savoir que « Ah! » Ben, crime, moi, je peux gérer ça. Je suis capable de gérer ça. Je me sens inconfortable, mais je peux surmonter ça. Hein? Donc, tant que c'est des situations qui sont adaptées et pour lesquelles les enfants ont un minimum d'intérêt, on peut persévérer et encourager notre enfant à persévérer. Si on voit que vraiment au bout de 3, 4, 5 semaines, notre enfant est vraiment au bout de sa vie puis il aime pas ça finalement, c'est correct, on n'est pas obligé non plus de s'acharner. Il y a comme une nuance entre s'acharner puis persévérer. Mais si notre enfant, il arrive à se pratiquer, à jouer au soccer à côté du groupe, puis qu'il arrive à en retirer quand même du plaisir, ben c'est un signe qu'on peut persévérer. Comment on peut faire, donc, comme parents pour apprendre à naviguer dans nos propres inquiétudes, dans notre propre stress, à quel moment il faut lâcher prise, à quel moment il faut écouter notre instinct? Ça fait déjà là, un petit moment que je parle, mine de rien, et je veux pas vous bombarder avec un épisode de 45 minutes. Donc, je vais préparer une deuxième partie. On va poursuivre la semaine prochaine avec des trucs concrets pour t'aider à mieux gérer tes peurs, mieux gérer ton hypervigilance. Mais en attendant, d'ici à la semaine prochaine, je vais quand même te donner un petit truc et te demander de faire un petit exercice. Donc, j'aimerais ça que tu remarques au cours de la semaine, que tu notes peut-être dans ton téléphone ou dans un petit cahier, les moments où tu te sens stressé, où tu te sens en hypervigilance, où tu as des pensées stressantes et que tu as justement la réflexion dans ces moments-là, là, est-ce que le danger est rationnel? Est-ce que le danger est réel ou pas? Et à chaque fois que la réponse est non, il n'y a pas vraiment une réelle menace et le danger n'est pas réel, j'aimerais que, en tout cas je te propose de faire ce petit exercice-là que j'appelle la respiration cassette, ok? Cassette pour deux raisons, parce que premièrement, tu vas te répéter une phrase comme une cassette qui recommence et qui recommence et qui recommence pour envoyer le message très clair à ton cerveau qu'il n'y a pas de menace, qu'il n'y a pas vraiment de prédateur, qu'il n'y a pas vraiment de danger. Et la deuxième raison pour laquelle j'appelle ça une respiration cassette, c'est qu'à une cassette, c'est un rectangle à quatre côtés. Right? Donc, tu vas pouvoir faire la respiration suivante qui est d'inspirer 4 secondes, ensuite de retenir ton souffle 4 secondes, ensuite d'expirer 4 secondes et de retenir ton souffle encore, de cesser de respirer pendant 4 secondes. Et tu vas répéter ça comme une cassette. Donc, 4 secondes j'inspire, 4 secondes je retiens, 4 secondes j'expire, 4 secondes je retiens, en te répétant la phrase qui prend à peu près 4 secondes à dire « Je ne suis pas en danger. Je ne suis pas en danger. » tu répètes ça dans ta tête pendant que tu fais tes respirations. Ça peut être aussi « mon enfant n'est pas en danger », selon ce qui est plus approprié dans ce contexte-là. Et donc, tu pratiques ça pendant... jusqu'à temps que tu te sentes calme, si tu sais pas trop, ça peut être pendant à peu près 2-3 minutes. Et tu peux pratiquer ça souvent. Aussitôt que tu commences à ressentir un petit peu des symptômes de stress, aussitôt que tu commences à te sentir un peu plus crispé, à te sentir inconfortable, à ce que ta respiration soit un peu plus saccadée, là, vraiment tous les symptômes que des fois on associe à la colère ou à l'impatience, c'est un signe d'un stress, c'est un signe peut-être d'une perte de contrôle. Donc, essaie de faire la respiration cassette. Je te laisse absorber et pratiquer tout ça. J'aimerais beaucoup, si tu pouvais venir m'inscrire en commentaire du podcast, à savoir si justement au courant de la semaine, tu sais, peut-être la semaine prochaine, là, quand ce sera le nouvel épisode, prends une petite minute pour venir m'inscrire en commentaire dans le podcast d'aujourd'hui, finalement, si au courant de la semaine, si tu as eu des peurs qui étaient plus rationnelles, ou si tes peurs étaient plus irrationnelles, même si t'ont vraiment fait peur puis qui te déstabilisent, et venir me dire un petit commentaire de comment ça a été la respiration cassette. Et la semaine prochaine, je te reviens avec des trucs, mais rapidement, je voulais terminer... parce que tantôt, je t'ai dit là, qu'il y avait deux petites formations qui s'en venaient. Donc, une formation pour accompagner la gestion et l'anxiété chez les enfants de 2 à 10 ans, avec beaucoup de matière pour mieux les comprendre, des stratégies évidemment pour accompagner, puis des exercices pour rendre le tout très ludique pour les enfants, et tout en contrôlant un petit peu mieux l'anxiété. J'ai parlé aussi de la formation pour mieux te comprendre toi, mieux comprendre le stress parental, mieux comprendre l'impatience, la colère, la rage, la détresse mentale même. Donc, on va vraiment focaliser sur... l'anxiété, le stress parental, encore une fois, je vais donner de la matière vraiment accessible pour pouvoir te permettre de vivre des déclics, comprendre des choses à propos de toi, te sentir soulagé ou compris, évidemment, plusieurs stratégies concrètes pour t'aider à progresser là-dedans. Et j'arrive finalement avec un tout nouveau programme. J'ai eu une idée qui a germé au courant de l'été. Alors, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec mes deux enfants. Et j'ai vraiment dû travailler très, très fort, je te le dis, pour ne pas m'arracher un cheveu de la tête un à un à certains moments parce que j'en pouvais plus de la chicane. Donc, l'été dernier, en parallèle avec mon projet de livre qui sortira justement début mars, j'ai préparé un programme qui s'appelle « Ma tribu pacifique, accompagner les conflits comme un chef ». Donc, je dois dire aussi que ça fait très longtemps là, que vous me le demandez, que vous me posez des questions sur les conflits entre vos enfants, parce que je sais que c'est parfois vraiment exaspérant. Donc, le programme, c'est celui-là qui va sortir en premier, va être disponible au printemps. Il va vous permettre de mieux comprendre les situations de conflit pour mieux les accompagner. Ça va vous permettre d'aider vos enfants à développer leurs compétences puis leurs habiletés sociales, parce que vous allez avoir tout en main pour les outiller, pour leur permettre de régler une grande partie des conflits de façon autonome. Je parle aussi de comment servir de modèle dans vos conflits entre les adultes. Je ne pouvais pas passer à côté, évidemment, de la rivalité dans la fratrie parce qu'elle est source de plusieurs situations dérangeantes et de plusieurs conflits aussi. Donc, un ne va pas sans l'autre. Je parle évidemment du partage, de l'arrivée d'un nouveau bébé, des coups, des mots cailloux, des jeux agressifs dans la fratrie. Je donne une panoplie de stratégies pour améliorer la dynamique familiale, ce qui est vraiment, vraiment important. Et il y a évidemment des outils de fournis, des activités aussi, des suggestions de lecture. Donc, encore une fois, c'est vraiment un programme hyper complet, un peu dans le même principe que le programme Bonsaï pour accompagner les enfants hypersensibles. Mais cette fois-ci, ça va pour accompagner votre tribu pour que votre quotidien soit un petit peu plus doux, soit plus agréable, qu'il y ait un petit peu moins de tension, un petit peu moins de rivalité, puis beaucoup plus de douceur. Donc, la semaine prochaine, je reviens avec comment on peut faire comme parents pour apprendre à naviguer dans nos propres inquiétudes, puis à quel moment on doit lâcher prise, à quel moment il faut écouter notre instinct. Alors, on se parle la semaine prochaine. Tourlou!